Donc, merci d'abord. Je voudrais beaucoup remercier Françoise Divinec de son invitation, très chaleureuse et vraiment extrêmement agréable. Avec
c'est grâce à Bernard. Moi, en fait, je ne fais pas grand-chose. C'est mon ami Bernard qui a fait
Merci Bernard, merci Françoise, et puis merci à tous les intermédiaires que je ne connais pas, qui ont rendu possible la chose. Donc, vous ne me connaissez pas non plus, c'est bien normal, parce que j'ai aucune raison de l'être. Donc moi, je m'appelle Philippe Grosot et j'enseigne la philosophie à l'université de Poitiers. C'est presque à côté, c'est pas très loin. Et surtout, depuis plusieurs années, je me suis passionné non seulement pour la question artistique, la philosophie de l'art, ça fait très longtemps que je la travaille, mais plus récemment, moins d'une dizaine d'années, enfin 8 ans très exactement, donc c'est très, très récent, je me suis vraiment passionné pour la question de la préhistoire. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Ça me semble être l'objet d'une véritable interrogation parce que cette question de la préhistoire, en fait, on le voit bien quand on visite des sites, elle est extrêmement sollicitante, ça attire beaucoup le grand public. Les musées souvent sont pleins, les facsimilés aussi. Et puis en même temps, une des grandes interrogations qu'on peut avoir, c'est le fait que, très étonnamment, nous avons du mal à assimiler les informations venant de la préhistoire. Probablement parce que la culture préhistorique est assez complexe et qu'il faut, je crois, une bonne dose d'investissement personnel pour pouvoir vraiment mesurer l'importance et l'enjeu de ce qu'on fréquente lorsque, par exemple, on visite un fac-similé ou mieux une grotte originale, parce qu'on le sait peu, mais il y a une trentaine de grottes et en France et dans l'espace cantabrique. C'est pas très très loin, la Cantabrie, d'ici. Oh, je dis pas y aller à pied tout de suite, hein, mais il pleut, attendez qu'il fasse plus beau, mais c'est voilà, à quelques heures de route, vous êtes en Cantabrie, il y a une vingtaine de grottes magnifiques, dans les Asturies aussi. Donc en fait, il y a un très riche patrimoine dans l'espace qu'on appelle franco-cantabrique, justement, de grottes ornées originales. Et je vous invite les uns les autres à les voir, je dirais presque préférentiellement à ces très célèbres facsimilés qu'on connaît, qui sont très bien fait techniquement, mais ce sont des musées, en fait, hein, les facsimilés, des musées techniquement bien faits. Alors, quand Françoise m'a invité, m'a proposé de tenir compte donc de l'événement dont elle vient de rappeler l'existence, et puis en même temps de présenter mon travail. Et j'ai eu l'idée, c'est ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, de faire en sorte qu'on s'interroge collectivement, que je vous livre au moins mes impressions sur ce que c'est que avoir à tenir compte de la préhistoire. Et puis d'abord, la première difficulté qui me semble être importante et qu'on doit envisager, c'est de savoir si on peut vraiment tenir compte de ce qu'on appelle préhistoire. Et il me semble que la difficulté est assez grande, et c'est ce que je voudrais vous exposer, ce qui me fera en venir progressivement à cette éventuelle affaire de Carnac, et puis surtout au rapport que j'envisage, quant à moi, entre la préhistoire et puis la philosophie, ce qui est un rapport assez inévident, il faut bien le dire. Donc la première question, c'est un paradoxe, et vous savez que les philosophes, ils aiment bien les paradoxes, ils ne savent pas toujours les résoudre, peut-être qu'ils ne sont pas tous à résoudre, mais ils aiment bien les formuler. Et je fais partie de ces philosophes qui aiment bien surligner parfois des paradoxes. Alors, quand on parle de préhistoire, il y a un premier paradoxe qui saute aux yeux, je crois, assez aisément, c'est que ce qu'on appelle préhistoire, c'est une discipline extrêmement récente. Chacun sait ça. Si on veut être un peu plus précis, je vais essayer de l'être. Le mot apparaît dans la langue d'abord scandinave, en suédois il se trouve, vers les années 1830, les datations ne sont pas très claires, sous la forme d'un adjectif préhistorique. Et puis, progressivement, une discipline commence à être constituée, et puis elle est constituée essentiellement au milieu du 19e siècle. Il y a un Français qui est extrêmement important, qui est douanier de son état. C'était encore une époque étonnante, merveilleuse, où les premiers préhistoriens étaient tous sauf des professionnels. On trouve des curés, des avocats, des médecins, enfin des gens qui ont un goût pour les activités des temps lointains. Et donc c'est un Français qui s'appelle Jacques Boucher de Perthes, qui est douanier dans la Somme et qui est passionné de vieilles pierres. Donc il ramasse des pierres taillées, qu'on appelait à l'époque des pierres de foudre, sans savoir exactement, parce qu'on pensait que c'était la foudre, et on ne pensait pas que c'était une activité humaine. Vous voyez les tailles de pierres, les premières pierres taillées qu'on retrouve. Et donc ce Jacques Boucher de Perthes, qui a un peu de moyens, c'est plutôt un bourgeois local qui heureusement a quelques finances et qui aide à organiser les travaux. C'est pas lui qui fait directement les travaux, il sous-traite, il a des ouvriers pour ça, et il fait des terrassements en baie de Somme. Et là, une des choses très importantes qui va être découverte, c'est des restes fossiles d'animaux dont on sait qu'ils sont disparus depuis très longtemps. Et à l'époque, la discipline correspondante est déjà suffisamment savante pour qu'on puisse identifier des restes d'animaux dont on sait qu'ils n'existent plus. Et puis surtout, l'élément déclencheur, ça va être de retrouver dans les couches stratigraphiques assez profonde, des restes fossiles d'animaux disparus et une pierre taillée. Et quand on trouve une pierre taillée, ben on se dit que ça, c'est une activité humaine. Il se trouve que stratigraphiquement, elle sera contemporaine d'animaux disparus. Et ça a été le début de la révolution de la préhistoire qui naît grâce à Jacques Boucher de Perthes, notamment, hein, c'est une des figures les plus importantes, autour des années 1850. Donc disons que le début de la préhistoire, des études préhistoriques, en France, ça débarque en France, c'est autour des années 1850. La découverte de Boucher de Perthes ne va pas aller de soi, elle va être longuement contestée, je vous passe les détails, il faudra l'intervention de grands biologistes et puis de naturalistes anglais pour authentifier ces réalités. Et puis une seconde étape très importante va également être franchie. À partir de 1879 d'abord, puis de 1902 également. Ces deux dates correspondent à quoi ? Au fait qu'en 1879, un homme qui habite en Cantabrie, un Espagnol, Sanz de Saotola, et surtout sa petite fille Maria, qui a 7 ans à l'époque et qui joue un rôle très important dans cette affaire, découvre dans une grotte qui s'appelle Altamira, en Cantabrie, qui est fermée aujourd'hui, mais donc il existe un facsimilé juste à côté, qui se visite, lui, évidemment, découvre une grotte ornée avec un plafond polychrome extraordinaire. Il y a 22 bisons, une biche, un cheval, et puis enfin beaucoup d'autres choses également qu'on peut toujours voir, au moins dans le facsimilé. Ça voudrait dire que donc les hommes du paléolithique, ou les femmes, les hommes et les femmes, les individus, sans générique du terme, évidemment, ont pu produire quelque chose comme cela, de l'art paléolithique. Alors, ce qui avait été découvert dès les années 1850, c'est ce qu'on appelait des objets mobiliers. Donc, ces objets mobiliers, ça veut dire des statuettes, des bois de rennes gravés, de l'ivoire gravé, ça, on connaissait. Donc, quand on cherche des choses comme ça, on regarde où ? Au sol, puisqu'on fait de l'archéologie. Et vous voyez la petite Maria, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà visité le facsimilé d'Altamira. Sinon, allez-y, mais juste après la conférence, partez pas tout de suite. Hein. Après les deux conférences, je veux dire. Le plafond d'Altamira descend en pente, ce qui fait que quand on est au fond, il y a à peu près moins d'un mètre entre le sol et le plafond. Donc évidemment, la petite Maria, elle avait 7 ans, elle va là-bas et puis elle revient. C'est au moins l'anecdote qu'on retient toujours en disant à son père « Toros, toros ». Et ce n'était pas des taureaux, mais c'était des bisons. Bon, on peut se tromper. En tout cas, 1879, ça c'est la date. Or, quand on découvre ça, personne ne comprend ce qu'il voit. Parce que, si vous voulez, la préhistoire, ça vient d'être inventé, et on a quand même tous, et parfois encore collectivement, cette affreuse idée que ce sont quand même des sauvages. Donc personne ne comprend comment des sauvages font des œuvres comme ça. Et donc ça a créé une très très vive polémique, malheureusement occasionnée également par les Français, dont Émile Cartaillac, mais pour des raisons qui sont complexes, je vais passer ici, sauf si vous voulez que à la suite on y revienne. Et la polémique se terminera vraiment en 1902, parce que entre-temps, à la fin des années 1890, 6 grottes ornées vont être découvertes en France et en Ardèche une, la grotte du Chabot, mais 5 autres en Dordogne. Et là, il y a une sorte de faisceau d'indices concordants qui fait qu'on ne peut plus On ne peut plus nier que ça a pu exister. Et donc Cartaillac publie en 1902 un article très célèbre chez les préhistoriens et archéologues, qui s'appelle « Mea culpa d'un sceptique ». Il fait vraiment amende honorable et il dit que, ben voilà, il dit clairement, hein, je me suis trompé et il faut reconnaître ses erreurs. Il les reconnaît, bon, plein de raisons, il ne pouvait plus faire autrement. Hein, il aurait été complètement ridicule de toute façon, mais quand même, il n'était pas obligé de faire un article aussi clair, et il l'a fait, on l'en remercie. Tout ça pour dire quoi ? Ce qu'on nomme la préhistoire, selon la façon dont on compte, si vous comptez à partir de l'apparition du mot préhistorique ou plus récemment de l'art qu'on appellera préhistorique et vraiment authentifié à partir de 1902 et depuis il n'y a plus de polémique sur l'authenticité de ces productions, ben ça a, selon le critère qu'on va prendre, un siècle et demi, deux siècles, mais pas davantage. Alors, ça c'est très important à bien comprendre parce qu'on est face à une discipline qui a moins de deux siècles et puis nous, notre histoire qu'on va appeler civilisationnelle, alors comment on va la compter ? Bon, aux dernières nouvelles, on sera encore en 2023, c'est ça ? Je crois, hein. Ça risque pas de changer jusqu'à la fin de la conférence, mais disons qu'on est en 2023... Donc déjà on compte à partir d'un temps zéro qui est quand même parfaitement lié à des contingences ou pas d'ailleurs, mais enfin bon quand même si, une grosse contingence. Et puis on compte, même si on va dire qu'on a un peu plus de 2000 ans d'histoire, imaginons que notre histoire on la pense en termes judéo-chrétienne et pas seulement chrétienne, alors on va rajouter quoi ? Un petit millénaire ? Bon. On passe à 3000. On va être un peu plus généreux. On va se dire, nos civilisations sont les civilisations de l'écriture. Alors là, c'est clair. On commence à se dire, bon, l'écriture s'est inventée où et quand ? Mésopotamie, 3300. Avant l'ère. OK, là, on a un bon repère. On se dit, nos civilisations, qui sont les civilisations de l'écrit, elles ont, si on compte très très large, 5000 ans. Parce que déjà, entre nous, on serait assez étonnés si on nous disait que notre civilisation à nous, elle a 5000 ans. On sait bien que c'est beaucoup plus récent. Mais si on compte très large, on a 5000 ans. 5000 ans, ça fait donc 50 siècles. Et voilà qu'une discipline qui a moins de 2 siècles remet en cause une civilisation qui en a 25 fois plus. Ça, c'est un premier paradoxe. Et ça, si vous voulez, c'est très intéressant à comprendre parce que ça veut dire qu'il est très difficile pour nous de laisser place dans nos cultures à une préhistoire qui va nous parler d'un temps extrêmement ancien, bien plus ancien que celui qu'on peut imaginer, mais qui, en fait, est d'une discipline extrêmement récente et qui s'est beaucoup développée depuis, qui a beaucoup augmenté son faisceau et son réseau de connaissances. La préhistoire est devenue une science extrêmement complexe. C'est une science qu'on peut appeler technoscientifique, empirico-formelle, comme on peut dire également. Mais en tout cas, c'est surtout la préhistoire, le nom d'une activité qui sait s'entourer de sciences dures. Quand on fait de la préhistoire aujourd'hui, on a une formation d'archéologue, mais surtout, je dirais qu'un préhistorien, c'est un type intelligent qui s'entourait de personnes beaucoup plus savantes que lui. Il s'entoure de physiciens, il s'entoure de chimistes, il s'entoure de paléontologues, c'est-à-dire les spécialistes des pollens, il s'entoure de gens comme ça qui vont lui apporter une technicité dans son savoir pour authentifier des sites, des dates, des lieux, des activités. Évidemment, ça veut dire que le grand public que nous sommes, et dont je suis aussi, est immédiatement tenu très à distance de ces avancées. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a fréquentation parfois des grottes et encore souvent de seconde main. On fréquente plus souvent, malheureusement, collectivement, des facsimilés que des sites originaux, mais rien d'autre. Et donc, la question, si vous voulez, c'est de savoir comment la préhistoire peut nous impacter, sachant qu'elle est devenue très technique, très scientifique, et qu'en même temps, elle n'a pas d'inscription dans un champ qui est culturel et civilisationnel très cohérent pour nous, hein, puisque c'est à la fois récent et en même temps, nous parlons d'un passé bien plus ancien. Alors, toute la difficulté, vous voyez, elle commence à surgir de là. Et donc, il faut se demander comment on peut tenir compte avec ces données de ce qu'on appelle la préhistoire. Alors, certains d'entre vous connaissent très probablement le nom d'un, d'un philosophe important, surtout dans la première moitié du XXe siècle, que fut Gaston Bachelard, philosophe que j'aime beaucoup, qui était à la fois un très très bon spécialiste des sciences et en même temps quelqu'un qui a écrit des pages merveilleuses sur ce qu'il appelait les éléments, écrit sur le feu, l'air, la matière en général, l'inspirait beaucoup dans une philosophie de l'imaginaire et une poétique des éléments qui est tout à fait frappante. Et dans un livre solide, scientifique, qui s'appelle La formation de l'esprit scientifique, justement, qu'il fait paraître en 1938, Bachelard invente un très beau concept. Vous allez voir, c'est très simple. Ne jetez pas tout de suite des tomates. Attendez un peu. S'appelle le concept d'obstacle épistémologique. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par obstacle épistémologique ? Il veut dire que parfois, nous promouvons, nous proposons des concepts qui s'imposent parce qu'ils nous permettent de mieux comprendre ce que nous proposons de saisir. Et puis, paradoxalement, ces concepts qui nous servaient à mieux comprendre le réel se retournent comme contre nous et puis bloquent l'avancée du savoir et des connaissances. C'est pour ça qu'il appelle ça un obstacle épistémologique. Ça devrait servir la science, épistémé en grec. Et puis finalement, ça finit par la bloquer. Eh bien, il me semble que le concept de préhistoire est un très bel exemple d'obstacle épistémologique. Alors, pourquoi je dis ça ? D'abord, il faut impérativement tenir compte de l'immense avantage que procure le concept de préhistoire quand il apparaît. Préhistoire, c'est pas un mot qui allait de soi, parce que ce n'est pas d'abord un savoir qui allait de soi. Je l'ai dit, je le répète, c'est une discipline très récemment inventée. Elle a moins de 2 siècles, en fait. Donc, pendant très très longtemps, jusqu'au milieu du 19e siècle, tous les humains qui nous ont précédés depuis au moins 5000 ans, mais en fait beaucoup, beaucoup plus de temps, ignoraient tout des temps qu'on appelle paléolithiques, qui en gros se terminent vers 12 000 ans avant le présent. Les préhistoriens parlent de avant le présent, et le présent pour eux c'est 1950. Oui, je vois votre question. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que c'est en 1950 qu'est inventé le radiocarbone qui permet la datation du même nom. Et puis c'est aussi en 1950 que les premiers essais nucléaires à l'air libre apparaissent qui détraquent la radioactivité terrestre. Et donc la date repère, c'est 1950. Bon, 1950, aujourd'hui, c'est pareil pour un préhistorien. Quand j'ai commencé la discipline, un de mes amis préhistoriens m'a dit « Tu te détends, Philippe, en préhistoire, on n'est pas à 1000 ans près ». Moi, ça m'a beaucoup rassuré pour les périodes à venir. J'avais encore un peu de temps, du coup. Bon, ceci dit, à échelle générationnelle, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Donc, la préhistoire, c'est un concept qui s'est imposé avec nécessité, parce que quand ça apparaît, on ignore tout de ce passé très lointain. Mais le concept de préhistoire, vous voyez, il est en même temps extrêmement riche et diffus. Quand je dis qu'on ignorait tout de la préhistoire, je rappellerai par exemple que si aujourd'hui on fait remonter la séparation entre les bipèdes qui ont donné le genre Homo, qui ont donné l'espèce sapiens que nous sommes, si on fait remonter la distinction entre l'apparition des premiers bipèdes et l'espèce qu'on appelle des pongynés, donc les grands singes, on remonte à 7,2 millions d'années. Donc, c'est même pas de vous figurer ce que ça représente, parce que de toute façon, c'est un chiffre abstrait pour nous. Mais moins abstrait, entre l'apparition du genre bipède à 7,2 millions d'années, qui ne sont pas complètement encore bipèdes, mais bon, quand même. Et puis, les premiers outils lithiques, les premières tailles de pierre, il va se passer 4 millions d'années. Alors, ça veut dire que, vous voyez, on a affaire à un temps extrêmement long. Il faut 4 millions d'années. Enfin, c'est complètement dingue quand on y pense de se représenter ça. C'est complètement irreprésentable. Il faut 4 millions d'années pour que les premiers bipèdes arrivent à produire les premières cultures que les préhistoriens vont nommer les cultures lithiques, donc les cultures de taille de pierre. Et puis, le genre Homo, que nous sommes. Ça, c'est une datation, c'est une des découvertes plutôt récentes. Ça a été publié par le paléontologue Jean-Jacques Hublin en 2017 dans une grande revue scientifique, je ne sais plus si c'est Science ou Nature, je crois que c'est Nature, en 2017. Le genre Homo, version un peu archaïque, mais quand même, il est déjà très proche de ce que nous sommes, il est daté de 315 000 ans. Et on a des traces fossiles au sud Maroc. Hein, donc voilà, toutes les origines, de toute façon, humaines sont africaines. Toutes. Donc vous voyez, on a des datations très anciennes. Or, pendant des siècles, on ignorait tout de cela. Un évêque irlandais du nom de James Husser, qui a vécu dans la première moitié du XVIIe siècle, avait cru résoudre formidablement le problème. Ça nous aurait rendu service si ça avait été vrai, mais c'est un peu faux, vous allez voir. Il pensait que la création du monde, bon, en même temps, il était évêque, alors il pensait en termes de création du monde. Il avait une date très précise. C'était le dimanche, c'est important. C'était un 23 octobre. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont nés un 23 octobre parmi vous, sinon, ben, voilà, c'est une date à retenir. Hein. 4004 avant le Christ. Donc, c'était pas mal. On avait une date très, très précise. Mais vous voyez, ça peut nous paraître étrange, ça nous fait sourire. Mais ce qui nous fait moins sourire, enfin, en tout cas, moi, c'est que Pie XII, bon, j'ai rien contre Pie XII. Attendez. Pie XII, en 1950, ça c'est quand même assez récent. Là, du coup, on n'est pas avec un évêque irlandais au début du XVIIe siècle qui n'a aucune raison de connaître la préhistoire parce qu'elle n'existe pas. En 1950, ça fait quand même un siècle que ça existe. Un siècle. Eh bien, Pie XII, en 1950, publie une encyclique qui est très célèbre, notamment chez les préhistoriens paléontologues, parce que c'est quand même une arête qui ne passe pas très bien, si vous voulez, quand on l'a avalée. L'encyclique s'appelle Humani Generis. Et il dit que la théorie de l'évolution est une hypothèse. 1950. Et 46 ans plus tard, Jean-Paul II, pareil, j'ai rien contre Jean-Paul II, moi j'ai rien contre personne de toute façon. Jean-Paul II, 1996, dit c'est plus qu'une hypothèse. Et la doctrine officielle de l'Église catholique en est restée là. C'est dingue, il y a de très très grands savants parmi eux, vous voyez, mais même la théorie de l'évolution est simplement plus qu'une hypothèse. Donc c'est quand même très problématique. Alors ça veut dire que cette haute ancienneté de l'homme qui va avec la préhistoire, manifestement, nous avons, d'un point de vue que j'appellerais civilisationnel, beaucoup de mal à l'assimiler, beaucoup de mal à la comprendre. Et ma question, c'est vraiment d'abord de pointer en quelque sorte très clairement cette difficulté-là. Bon. Pourquoi nous avons beaucoup de mal à la comprendre? Cette première remarque fait qu'il est important de reconnaître la pertinence du mot de préhistoire. Parce que vous voyez, elle a lutté contre l'anhistoricité de la naissance de l'homme avec une thèse créationniste, dont je rappellerai malheureusement qu'elle n'a pas disparu de toutes les têtes, cette thèse créationniste, et qu'on voit encore régulièrement ici ou là, y compris dans des pays quand même de grande culture, je pense par exemple aux États-Unis, des thèses ressurgir comme ça, qui posent problème. Donc il faut maintenir l'idée de la préhistoire, parce qu'elle est très importante, et elle n'est pas, c'est pas un acquis absolument irréversible. Mais en même temps, donc ça c'est pour valoriser le terme, et en même temps, ben, y a un problème, c'est que ce terme même de préhistoire, c'est vraiment un faux ami. Il nous crée un problème, pas au sens linguistique du terme, mais il nous crée un problème parce qu'on y est attaché, et en fait c'est un terme très complexe. Comment il est né, la préhistoire? La chose préhistorique, on le sait, c'est à partir des années 1850. Mais le terme préhistorique, il a mis du temps à se fixer dans la langue, et il n'apparaît vraiment dans la langue qu'au début des années 1880, et pas avant, et notamment par un préhistorien qui va fixer la chose, qui est à l'époque très important, qui s'appelle Gabriel de Mortillet. Ses œuvres aujourd'hui sont difficiles à trouver, mais pas totalement impossible. Et Gabriel de Mortillet hésite avec un mot que propose un autre préhistorien qui s'appelle Paul Tourmal. Tourmal parlait plutôt de antéhistorique, et de Mortillet dit non, il faut prendre préhistorique. Et il a une justification qui l'avance, qui dit, je vais vous citer ce passage que je trouve intéressant, il dit « Entre les mots antéhistorique et préhistorique, c'est l'emploi de ce dernier qui l'a enfin emporté avec juste raison. En effet, le préfixe anté a un double sens. Il signifie avant ou contre. Le préfixe pré est plus simple et plus net. Préhistorique n'a et ne peut avoir qu'un seul sens, avant l'histoire ou les documents historiques. Et voilà, on y est, c'est ça le problème. Parce que nous, depuis, on vit collectivement là-dessus. La préhistoire, c'est avant les documents historiques. Et les documents historiques, c'est les documents écrits pour lui. Et oui, c'est très étrange, parce que ce gars, Gabriel de Mortillet, c'est quand même préhistorien, donc il est quand même archéologue. Il devrait savoir qu'il y a des documents non écrits. C'est le métier de l'archéologue de le savoir. Mais le concept de préhistoire va précisément désigner les documents non écrits. Et donc, c'est ça qui va, pour beaucoup, fixer la chose. Ce qui fait que dans notre formation d'élèves, d'étudiants, etc., il y a l'histoire qui ne cesse d'être richement et nécessairement enseignée. Et puis, il y a la préhistoire sur lesquelles on doit passer quoi, une semaine ou deux dans les petites classes. Et puis après, si on ne fait pas d'études d'archéologie préhistorique, on en sait ce qu'on peut bien grappiller nous-mêmes les uns les autres, c'est-à-dire pas grand-chose. Et donc, c'est ça le problème. Or, la préhistoire, c'est un terme, les préhistoriens le savent bien, parce que justement, ils ne l'utilisent pas, ce terme, qui mêle au moins deux grandes périodicités, lesquelles sont multiples elles-mêmes. Ces deux grandes périodicités, pour faire court et simple, c'est d'une part ce qu'on peut appeler les périodes paléolithiques, et puis les périodes néolithiques. Mais ces périodes elles-mêmes sont très riches. Et pardon, mais il faut préciser un petit peu les choses pour que vous compreniez mieux l'objet de la difficulté. Au sein du paléolithique, on peut distinguer quatre grandes périodicités. Donc, on va parler du paléolithique archaïque à partir de 3,3 millions d'années. Et ça, ça correspond à une date importante pour les préhistoriens, mais qui est encore susceptible d'évoluer parce que ça correspond à la date des premières cultures qu'on va appeler matérielles. Une culture matérielle, c'est une culture qui produit un objet lithique, c'est-à-dire une taille des pierres, tout simplement. Donc, aujourd'hui, les plus anciennes cultures lithiques retrouvées sont dans le Turkana oriental, au Kenya, au sud Kenya. Si demain, après-demain, dans 100 ans, on découvre une taille de pierre qui remonte à 3,8 millions d'années, on reculera la date, voyez. Et il y a encore 6 ans, on pensait que les cultures les plus anciennes étaient à 2,7 millions d'années. Donc la découverte à 3,3, enfin, on a l'impression que c'est un jeu de chiffres ou sur un curseur, mais repoussé de 600 000 ans, enfin, les dates sont tout de suite extraordinairement vertigineuses dans cette affaire. Hein. Donc on a un paléolithique archaïque, entre 3,3 et 2,4 millions d'années. Pourquoi 2,4 ? Excellente question. Eh bien, je réponds tout de suite. C'est l'apparition du genre Homo. Donc, avant, il y a bien des bipèdes qui relèvent du genre qu'on appelle des hominines. Mais ce ne sont pas du genre Homo. Et dans le genre Homo, il n'y a pas que Sapiens. Il y en a beaucoup d'autres, à vrai dire. Donc, entre 3,3 et 2,4, le paléolithique archaïque, entre 2,4 et 300 000 ans, on a ce qu'on appelle le paléolithique ancien. Et ça, c'est donc à partir de la naissance du genre Homo jusqu'à des façons de tailler la pierre qui vont considérablement changer la donne. Puis les préhistoriens, je vous passe le détail, peu importe pour nous aujourd'hui, les préhistoriens ont parlé également du paléolithique moyen, entre 300 000 et 400 000 ans. Et là, c'est en Europe de l'Ouest, la grande dominante, c'est évidemment Homo sapiens, l'homme de Néandertal, pardon, puisque les sapiens à 40 000 ans sont déjà là, mais voilà, les grandes cultures dominantes, ils ne sont pas là depuis très longtemps, on va dire. Mais les grandes cultures dominantes, c'est les Néandertaliens. Et puis, le paléolithique récent, qui nous intéressera davantage, à partir de 40 000 ans jusqu'à 12 000 ans, Là, ça devient sérieux, si j'ose dire, parce que Sapiens arrive depuis l'Afrique et le Moyen-Orient jusqu'en Europe de l'Ouest, et puis à 40 000 ans, les traces sont nombreuses et attestées dans tout l'espace franco-cantabrique, et un peu au-delà d'ailleurs, puisqu'on en trouve évidemment également en Europe centrale, en Ukraine, en Russie, jusqu'en Sibérie. Voilà, tout cet axe-là est occupé. Alors, vous voyez, déjà, pour un préhistorien, dire la préhistoire, c'est un concept qui est flou. Parce que si on s'en tient, par exemple, au paléolithique, il y a des paléolithiques qui nous rapportent à des réalités très différentes les unes des autres. Mais il y a pire comme problème. Parce que préhistoire, c'est un concept qui va englober à la fois le paléolithique et également le néolithique. Et le néolithique, ça, c'est très différent. Et pour le comprendre, il faut comprendre ce qui s'est passé entre les deux. Alors, on pourrait dire, il y a paléo et néolithique. Il y a paléolithique, mésolithique, néolithique. Alors, pourquoi c'est très important? Vers 10 000 ans, avant le présent, se produit un phénomène pour lequel l'humain, pour une fois, n'y pourra rien, la rotation de la Terre sur son axe par rapport au Soleil. C'est un événement absolument décisif. Il se reproduira, mais dans très très longtemps. Donc pour l'instant, on peut laisser venir. Il va se passer des choses entre-temps. Cette rotation produit en très peu de temps, quelques siècles, donc c'est vraiment, à l'échelle géologique, c'est comme ça, hein, produit un réchauffement de la Terre d'environ 12 degrés Celsius. Alors 12 degrés Celsius, si vous voulez, pour bien que vous compreniez ce que ça signifie, et pour avoir peur de ce qui va se passer bientôt, 12 degrés Celsius, ça veut dire une fonte des glaciers avec une hausse du niveau de la mer, à votre avis, de 6 mètres. Oh, petit joueur, 120 mètres. Alors, regardez l'immeuble derrière et puis voyez que c'est beaucoup, beaucoup plus haut. 120 mètres, 12 degrés Celsius, 120 mètres du haut niveau de la mer. Ce qui explique, par exemple, que la grotte Kosker soit aujourd'hui à 37 mètres sous niveau de l'eau. À l'époque, elle était donc à 90 mètres sur la falaise. C'est vertigineux. Hein, tout est vertigineux dans la préhistoire. C'est ça qui est merveilleux. Donc, 120 mètres, recul des terres de 70 km. Quand j'explique ça à mes étudiants, moi qui vis et enseigne à Poitiers, vous savez qu'il y a la belle ville de La Rochelle, pas très loin, je leur dis, vous voyez, La Rochelle, il y a 10 000 ans, c'était à 70 km de la côte. Et ça veut dire également un changement de la faune et de la flore. Donc, par exemple, comme le climat se réchauffe de 12 degrés, on était avant dans un climat de type steppique, toundra au nord, taïga au sud, hein, donc végétation rase, petit bouleau au sud des Pyrénées, vraiment pas grand-chose, quoi. Toundra, enfin, paysage de Sibérie, voilà, vous aviez ça. Hein. Les glaciers descendaient très au sud de Lyon, par exemple. L'Angleterre n'existait pas. La Manche était une rivière. L'Angleterre, c'est tardif, hein. C'est 6000 ans. Pas avant. Avant 6000 ans, il n'y a pas d'Angleterre. Ça ne s'est pas détaché. C'est donc tout à fait vraiment spectaculaire tout ce qui s'est passé. Et donc, ce réchauffement a complètement changé d'abord la faune et la flore. Et donc, vous avez des animaux qui ont migré. Alors, ça explique que maintenant, le Père Noël se retrouve en Scandinavie parce que les rennes ont suivi le Père Noël. Enfin, ou l'inverse, je ne sais plus trop. Vous y retrouverez. Donc il y avait des rennes jusqu'au sud de la France, et ils sont partis dans les paysages beaucoup plus froids en Scandinavie. Le mammouth a tenu encore quelques années, mais il a migré vraiment au nord et surtout en Sibérie. Des animaux comme le mégacéros, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un mégacéros, hein. Il y en a parfois dans des musées de préhistoire, notamment aux Ésides Teillac en Dordogne, il y a un très beau qui est reconstitué. Alors ça déboît d'une ampleur qui peut aller jusqu'à 3 mètres. Bon, évidemment, c'est pas un avantage d'avoir des bois de 3 mètres quand les forêts poussent. Et il a disparu tout de suite. Et puis il y a des animaux qui ont su un peu s'adapter. Beaucoup ont changé, évidemment, sans doute. Et donc, cette période, elle est très importante. C'est celle que les préhistoriens nomment le mésolithique, cette période-là. Parce que ça veut dire qu'entre 10 000 et 7 000 ans, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un réchauffement du climat que je vous ai décrit, mais pas une transformation des modes de vie des humains. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont encore, à ce moment-là, des chasseurs-cueilleurs semi-nomades. Et c'est simplement à partir du moment où, vers 9000 ans avant l'ère, cette fois-ci, au Proche-Orient, donc sur les plaines de l'actuel Israël, de la Libye, de la Syrie, du Liban, dans toute cette région-là, de partie du monde, que les premières agricultures sont inventées autour de 9000 ans, que ces procédés vont gagner progressivement toute l'Europe de l'Ouest en migrant très lentement d'Est en Ouest pour arriver jusqu'à nos terres du Finistère très tardivement. Très tardivement parce que ce processus, il prend quasiment plus de 4000 ans. Et il va procéder d'une façon assez complexe. Les préhistoriens ont étudié très très bien ça. Ils ont recréé des chemins migratoires. Alors il y en a deux qui sont particulièrement importants. Un chemin qui emprunte une voie maritime via la Méditerranée. C'est une culture que les préhistoriens nomment cardiale, parce qu'elle décorait les motifs de poterie qu'il créait par impression de coque. Et coque, en latin, ça se dit cardium, donc on appelle ça une culture cardiale. Puis il y a une seconde voie migratoire qui va passer, qui nous intéresse plus pour l'endroit où on se trouve aujourd'hui, qui va passer par le nord de l'Europe. Et notamment, on sait que cette culture-là, qui s'appelle la culture rubanée, parce qu'elle fait des motifs linéaires sur les décorations de poterie, c'est simplement ça l'origine de la chose, arrive en Alsace, on a les traces archéologiques de poterie, dès 5800 avant notre ère. Et c'est cette culture-là qui va aller encore plus à l'ouest et qui arrive dans le cul-de-sac continental qui est cette Europe de l'Ouest, parce que évidemment, on ne peut pas aller plus à l'ouest. Hein. Petite anecdote, quand j'étais jeune prof, j'avais un de mes collègues, jeune ami qui venait du Tarn, il avait d'ailleurs un accent magnifique du Tarn, mais vraiment à couper au couteau, et il a été muté à Dunkerque. Et il m'avait dit avec un humour inégalable, mais l'accent je ne l'imiterai pas, plus au nord, tu coules. C'est un peu plus à l'ouest, il arrive à peu près à la même chose. Donc il se fixe là, et cette culture-là, vous voyez, elle va vraiment progressivement complètement changer la donne, parce que ça va remplacer la population paléolithique, qui est une population de chasseurs-cueilleurs, par une population d'agro-pasteurs qui, eux, sont sédentaires, puisqu'il faut cultiver les terres, et même les activités pastorales sont des activités sédentaires, on ne se déplace pas quand on est pasteur, on migre très très peu, enfin, ça n'a rien à voir avec les activités de chasseurs-cueilleurs. Et notre culture, aussi loin, je crois qu'on puisse l'envisager, relève de cela. Alors, je vous donne juste un exemple, si vous voulez, pour qu'on comprenne bien. Par exemple, imaginons qu'on prenne comme base culturelle, ce qui n'est pas du tout absurde, loin s'en faut, parce que ça nourrit vraiment notre civilisation, la référence judéo-chrétienne. Relisez, à partir de ce que je viens de vous dire, le livre de la Genèse. C'est un amusant petit dialogue entre un pasteur et puis un cultivateur, que ce dialogue un peu meurtrier entre Abel et Caïn. Ce conflit que la Bible présente comme originaire, c'est vraiment une invention néolithicienne. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, il faut avoir effacé toute culture paléolithique pour dire que c'est ça l'origine de la civilisation, vous voyez. Et donc ça veut dire qu'aussi loin que notre culture collective remonte, je prends quand même un exemple important pour nous, qu'on nous soyons croyants ou pas, c'est un texte qu'il faut avoir lu, il est fondateur de notre civilisation. Mais notre civilisation, elle est basée sur le fait que nous avions entériné que nos plus anciennes références sont néolithiques. Abel et Caïn, bah oui. Conflit d'agro-pasteurs. Ça, c'est quand même drôlement intéressant. Et si vous lisez la Bible avec ce critère-là, vous allez en trouver plein de références comme ça. C'est un texte de son époque, qui parle le langage de son époque. Voilà. Alors, vous voyez, tout ça, c'est très important à comprendre, et c'est très important parce que ça veut dire que ces civilisations d'agro-pasteurs qui arrivent jusque dans le Finistère, eh bien, encore un peu plus tard, et donc, mais au début de leur arrivée ici, disons entre le 5e et le 3e millénaire, eh bien, elles vont produire cet art magnifique, et étonnant et surprenant, cet art des mégalithes qu'on peut rencontrer ici en Bretagne, mais plus encore d'ailleurs dans la Drôme, pardon de dire ça, mais il y a encore plus de mégalithes dans la Drôme qu'en Bretagne. Enfin bon, mais pas en concurrence. Ils sont là, ils existent. Et alors vous voyez, c'est, du coup, ça crée une chose qui est quand même étrange, parce que ça veut dire que cette culture des mégalithes, là, elle devient visible pour nous. On n'est pas avec les paléolithiques dans un art du souterrain, des grottes ornées qui sont quand même complètement insoupçonnables. Tant qu'elles ne sont pas découvertes, on ne peut pas savoir qu'il existe des merveilles comme Chauvet, Lascaux, Cussac, Rouffignac et des dizaines d'autres grottes que je pourrais volontiers vous inviter d'aller voir si vous me le demandez après, et qui sont accessibles. Mais on est dans un art terrestre, subterrestre, si j'ose dire, donc visible, accessible. Ce qui veut dire que les cultures celtiques, qui est la nouvelle vague d'invasion, qui arrive vers 800 avant l'ère. Les Celtes sont des envahisseurs, c'est-à-dire les Armoricains sont des envahisseurs. Ils ont éliminé, mais comme ça se fait tout le temps, partout, ni plus ni moins, les cultures préexistantes. Ils les ont assimilées, c'est pas qu'ils les aient massacrées, les gens, pas du tout, c'est qu'ils les ont acculturées. Hein, si vous allez en Grèce aujourd'hui, vous allez voir des chrétiens orthodoxes, ne pensez pas y aller, comme j'y suis allé quand j'avais 20 ans, tout idéaliste, en pensant voir la patrie de Socrate. Je suis tombé sur des Grecs orthodoxes, oh, j'ai trouvé ça un petit peu fort de café, comme on dit, pas ici, mais dans le Nord. Voyez, donc en fait, les cultures chrétiennes, elle a acculturé les civilisations précédentes et les a fait disparaître. Et ben, les Celtes, puis Armoricains, et tout. Ce qui fait que les mégalithes, ils sont produits quand ? Entre le 5e et le 3e millénaire. Après la fin du 3e millénaire, il n'y a plus de civilisation correspondant au néolithique. Les Celtes, quand ils arrivent en 800, ils voient des vestiges correspondant à une culture qui n'est pas la leur. Sauf que ils ont fait souche ici. Les populations armoricaines se sont développées ici. Ceux qui vivent ici depuis toujours en sont les très lointains descendants, peut-être, avec plein de croisements entre-temps, je n'en doute d'ailleurs pas. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que les populations ici qu'on trouve se sont à la fois légitimement assimilées à un patrimoine culturel et historique, mais se sont assimilés un patrimoine culturel et historique qui, en fait, n'a pas été créé par leurs propres descendants. Pas du tout. Parce qu'il y a plus de 1000 ans d'écart, rendez compte, à l'échelle générationnelle, il y a plus de 1000 ans d'écart entre la fin des mégalithes et l'apparition des Celtes, puis des Bretons. Donc, évidemment, Astérix, c'est très sympathique, mais il faut renoncer. Voilà. Alors, je dis c'est très sympathique et il faut y renoncer. En même temps, je suis passé hier avec grand plaisir dans un musée de préhistoire que, honte à moi, je ne connaissais pas encore, le musée de préhistoire de Carnac. Et il y a un petit dessin d'Obélix. Alors, dans la muséographie, il est bien dit que ce n'est pas vrai. Mais quand même, ils auraient pu dire que c'est surtout pas les mêmes dates, parce qu'on lit juste ce n'est pas... Ben oui, donc ça veut rien dire quand on ne connaît pas ces histoires-là. Et donc vous voyez, tout ça, ça fait que c'est très compliqué à assimiler et c'est drôlement intéressant à comprendre parce que ça veut dire que nous avons de fait, et ça répond en partie à la question que je voudrais vous poser, comment tenir compte de la préhistoire et si on peut en tenir compte, ben, il me semble que... Il y a deux obstacles pour pouvoir tenir compte de la préhistoire. Il y a le premier obstacle, c'est de comprendre que le mot préhistoire fait obstacle parce qu'il mêle deux choses qui sont très différentes. C'est-à-dire, il mêle le néolithique et le paléolithique. Or, le paléolithique, ce sont des cultures de chasseurs-cueilleurs dont strictement tout nous sépare. Tout. Et pour vous en donner un dernier exemple, j'ai un peu encore de temps, merci. Moins de 3 heures. Merci. Je suis très bavard là-dessus, donc il faut vraiment m'interrompre, sinon je pourrais parler franchement très longtemps, mais ce n'est pas nécessaire. Pour en donner encore un dernier exemple qui sera qui m'amène un peu au cœur de mon travail, cette fois-ci.
Là, c'était l'intro. Hein. Le préambule, oui.
Merci Bernard, merci Françoise. Vous m'aidez beaucoup tous les deux. Hein. Donc, passé ces préambules, venons à l'introduction. Un exemple pour bien comprendre pourquoi les paléolithiques, c'est vraiment presque incompréhensible pour nous. Je me suis, dans tout mon travail sur la philosophie de la préhistoire, qui est une discipline qui n'existe pas, donc déjà ça met les choses au clair, mais ça ne me facilite pas la tâche, j'ai d'abord étudié fondamentalement la question des représentations artistiques. Et quand on travaille sur le paléolithique, donc je rappelle, vous avez suivi, hein, entre 40 et 12 000, on voit dans tous les sites qu'on peut voir, sans aucune exception, aucune exception. Et il y a des centaines de grottes. La plupart sont fermées. Mais il y a 265 grottes découvertes dans l'espace franco-cantabrique à ce jour, répertoriées. Donc c'est quand même important. Eh bien, le motif de la représentation des paléolithiques, c'est un bestiaire symbolique. Un bestiaire qui est relativement pauvre, qui plus est. Il y a une quinzaine d'animaux dominants. Les plus célèbres, c'est le mammouth, le roc, le bison, la biche, le bouquetin, voilà. Mégacéros, parfois, ben, bref, une quinzaine d'animaux. Et puis, en guise d'homme, vous avez des métonymies ou des allusions d'humains. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous regardez de près, l'humain, il est présent parce que tout le monde sait bien, et eux, les premiers, que seul l'humain peut dessiner, graver, peindre. Les animaux ne font pas ça. Donc, ornementer une grotte d'animaux, c'est un acte anthropique. L'humain seul peut le faire. Mais lui ne se représente pas entre 40 et 12 000. C'est-à-dire, vous avez des mains, négatives ou positives, pour revenir à cette distinction si vous voulez après, et vous avez des sexes, le plus souvent féminins, très très peu masculins, sauf un peu dans l'art mobilier. L'art mobilier, donc, c'est ces objets qu'on trouve sous terre, enfin, les couches stratigraphiques. Donc dans les grottes ornées, vous avez des animaux et des allusions à l'humain, type métonymique, donc la partie pour le tout, hein, métonymie. Donc vous avez des mains, positives ou négatives, la plupart sont négatives, et puis des sexes, la plupart sont féminins. Et puis vous avez aussi des figures allusives qui représentent comme de façon fantomatique, vous voyez, des humains. Mais alors, on se dit, mais pourquoi ils ont fait ces sortes de fantômes bizarres, des silhouettes très étranges, alors que vous avez parfois des styles d'orientation d'animaux qui sont quasi naturalistes. Premier étonnement. Deuxième étonnement, dans la période du Mésolithique, qui dure quand même 3000 ans, entre 10 000 et 7 000 ans, l'art figuratif disparaît complètement. Vous n'avez que des représentations géométriques abstraites. Là encore, quasiment pas d'exception. Et puis à partir du néolithique, donc à partir de 6-7 000 ans, mais plutôt 5 000 en fait, là vous allez avoir un nouvel art néolithique qui va ressurgir. Et quand il ressurgit, l'art néolithique, il représente d'une façon qualitativement identique l'humain et l'animal. Et là, premier étonnement, l'humain est clairement représenté. Mais second étonnement, bien plus important encore à comprendre, l'art néolithique, deux exemples de géographiques de cet art. Vous le trouvez, alors, très peu en Europe de l'Ouest, mais quand même sur toute la côte levantine de l'Espagne, donc la côte qu'on appelle catalane aujourd'hui. Hein, c'est des sites à ciel ouvert, c'est plus des grottes, donc c'est des sites à ciel ouvert. Là, vous avez un millier de sites qui sont en mauvais état, parce qu'à ciel ouvert, mais on trouve encore des choses. Puis malheureusement, ils sont assez peu étudiés, donc ça mériterait de grandes études, mais bon, c'est un peu complexe. Bref, vous voyez pas mal de sites, et puis vous en voyez aussi pas mal dans le Sahara central, aussi bien donc le sud-ouest algérien que le sud-est libyen. Et là, pour d'autres raisons, c'est parfois difficile de s'y rendre, mais vous les connaissez, ces raisons. Bref, dans ces sites-là, là, c'est un art qui est similaire dans les deux cas. Et vous voyez que ce n'est pas seulement l'humain qui est représenté en même temps que l'animal, c'est surtout, c'est ça qui change tout, l'activité humaine qui est représentée. Je vous en donnerai deux exemples. Au Sahara central, daté à peu près de 4500, et la datation est assez fiable, on a la plus ancienne scène de traite connue à ce jour. Alors, vous voyez, vous avez une vache en profil droit et un humain trayant la vache en profil gauche. C'est une scène de traite profondément gravée, visible à l'œil nu. Très belle scène, qui est assez grande. Hein. C'est-à-dire, ça fait, la vache fait plus de 80 cm de long, 60 de haut sur la scène, et puis la scène est gravée au-dessus, en dessous, enfin par d'autres activités. Mais cette scène-là, voilà, c'est une belle scène de traite. Alors, imaginez que vous voyez un auroch dans une grotte. Prenons la grotte la plus célèbre, sûrement en France, la grotte Lascaux. Vous voyez un de ces beaux aurochs de la salle des taureaux de Lascaux. La salle des taureaux, il y a un auroch qui fait 5,50 m de long. Monstrueux. Aucun humain. Vous voyez un auroch. Et puis, vous voyez au Sahara central, ensuite, à 5005, une scène de traite. Quand vous voyez une scène de traite, vous ne voyez pas une vache. Vous voyez précisément, et c'est pour ça que ça s'appelle une scène de traite, un homme trayant une vache. En l'occurrence, c'est un homme qui est gravé. Et donc, ça veut dire que ce qui est important pour les néolithiques, ce n'est pas la figuration du bestiaire animal, c'est la figuration de l'activité humaine telle qu'elle devient le centre qui organise toute la représentation de ce qui peut se montrer. Donc l'animal va devenir progressivement, ce qu'il est quasiment jusqu'à nos jours, le faire valoir des activités humaines. Et à peu près rien d'autre. Et donc quand on comprend ça, vous voyez, on comprend quelque chose d'extrêmement important. On comprend que la distinction sur laquelle nous avons vécu à cause de ce mauvais concept de préhistoire nous poussait à penser que la distinction importante dans l'histoire de l'humanité, c'était avant, après l'écriture. Mais en fait, c'est un épiphénomène, l'écriture. Jusqu'au début du XXe siècle, dans nos campagnes, il y avait plein de gens qui ne savaient pas lire ni écrire. Alors évidemment, civilisationnellement, ça existait, et avec une haute intelligence et une haute culture. Mais épiphénomène de l'histoire qui est la nôtre. La grande césure, je crois qu'elle appartient au passage du paléolithique au néolithique. Et c'est ça, si vous voulez, qui nous permet de commencer à comprendre ce que veut dire préhistoire et d'avoir à en tenir compte, parce que si cette grande césure, elle apparaît, c'est parce que tout d'un coup, ce qui a changé pour tous les humains que nous étions déjà, et nous étions déjà que, depuis très longtemps, que des sapiens, c'est le fait que l'humain est devenu le centre absolument majeur de l'intérêt qu'il porte au monde. C'est pas facile à admettre, mais peut-être que ça explique certaines choses que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire une sorte de queue de comète, comme si nous étions, à partir de moins 10 000, nous avions comme épuisé tout un processus qui fait qu'aujourd'hui, les questions qui se posent à nous, c'est plutôt notre rapport au monde du vivant, et qu'il est un peu difficile, parce que on a pris un peu de retard. On a pris un peu de retard, et que il est hors de question de faire marche arrière, c'est civilisationnellement impossible, et c'est plus le problème. Mais vous voyez, quelque chose s'est passé qui a été qui a tourné à ce moment-là, mais de façon absolument décisive. Hein. Donc, et si vous voulez, ça, c'est fabuleux de le comprendre à partir de l'art, parce que l'art, on peut bien parler d'intentionnalité d'un artiste, même à la préhistoire, ça existe, mais l'art, c'est bien plus qu'un phénomène subjectif, ça ne ment pas. Les œuvres du siècle précédent témoignent du siècle précédent. L'art est un témoin objectif de l'histoire des humains. Et l'art d'il y a 5000, l'art d'il y a 20 000 ans, est un témoin objectif des mentalités, des cultures, des peuples d'il y a 5000 ou 15 ou 20 ou 35 000 ans. Donc la vraie césure que j'envisage, qui est à mon avis la plus décisive que l'humanité ait jamais comprise, conçue, et à concevoir, et c'est ça qui est difficile pour nous à faire aujourd'hui, c'est la césure entre la fin du paléolithique récent et le début de la néolithisation. Et vous voyez que ça part en plus d'un événement climatologique pour lequel on n'y est pour rien. C'est ça qui est encore plus singulier dans cette affaire. Ce tournant, nous n'avons pas pris intentionnellement, mais il est là, et il a tout révolutionné. Alors, j'entends bien la question, quel rapport avec la philosophie ? Aucun ? Si, quand même, un petit peu. Alors, au début, j'ai commencé mon travail, je me disais, ça serait quand même bien que... depuis que la philosophie existe, qui est plutôt une activité ancienne dans les sciences et le savoir rationnel, puisque ça a 2500 ans, pas davantage. Mais c'est pas mal, 2500 ans, surtout à échelle générationnelle. Donc, et puis la préhistoire s'est inventée, je vous l'ai dit au début, hein, vraiment définitivement avec la reconnaissance de l'art dit pariétal après 1902. Et donc, quand j'ai commencé mon travail, je me suis un peu étonné, un peu par chance, par rencontre un peu hasardeuse, du fait que, quand même, depuis 1902, la philosophie avait produit beaucoup de choses, il s'était passé beaucoup de choses, et que, étonnamment, les philosophes ne s'intéressaient pas à la préhistoire. C'est malheureusement pas une blague. Hein. Je pourrais nommer quelques grands noms qui ont fait des percées, mais est-ce que le nom de Georges-Henri Luquet vous dit quelque chose ? C'est un philosophe, mais qui est connu surtout des psychologues aujourd'hui, parce qu'il a étudié les dessins d'enfants. Très bon philosophe. Il a écrit entre 1910 et 1930. Et puis, bon, oublié. Georges Bataille, on connaît son nom. Mais Georges Bataille, il a écrit un grand livre important sur Lascaux. Mais pour plein de raisons, dont une majeure, c'est que l'œuvre de Bataille, c'est à peu près une quarantaine de livres, et c'est un livre sur la préhistoire, et puis après, plus rien. Donc, vous voyez ça, un livre, ça ne fait pas école, quoi. Ça ne fait pas école. Ça ne produit pas de traces, ça ne produit pas de jeunesse, ça n'impulse pas de mouvement. Et donc, les philosophes ne se sont pas intéressés à la chose. Et donc au début, je me disais, ben, peut-être nous pouvons essayer de penser les concepts qu'utilisent les préhistoriens, ce que j'ai commencé à faire. Et très vite, je me suis rendu compte, en les lisant, et en lisant beaucoup et passionnément, qu'ils sont très très savants. En gros, ils n'ont pas du tout besoin de philosophes. Leur épistémologie, leur regard critique sur leur discipline, ils sont capables de la faire quand on les lit et les connaît. Ben oui, il y en a plein. Là encore, je pourrais vous donner beaucoup de noms si vous le souhaitez. Mais en revanche, je dirais que ce qui est nécessaire, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est les philosophes qui ont besoin des archéologues préhistoriens. Et je le pense vraiment. C'est pas du tout, je dis ça à mes amis maintenant préhistoriens, et c'est pas une flatterie. C'est le fait que quand on étudie les données issues de l'archéologie préhistorique, eh bien progressivement, peut-être on comprend notamment cette grande césure à partir de l'art dont je vous ai parlé. Et si je la reprends maintenant, ben vous allez comprendre pourquoi, en philosophe, je m'y intéresse. Parce que si, à partir de l'art du néolithique, la figure humaine s'impose comme majeure, à tel point qu'elle reconfigure notre vision du monde, notre façon de nous y rapporter, hein, puisqu'elle est l'homme est peint comme le centre des activités à partir desquelles tout le reste du vivant s'organise. Moi, je me rappelle du coup que ce qu'on appelle la philosophie, ça a peut-être 2500 ans, donc c'est né vers 500 avant notre ère. Bon, on appelle tout ça l'Antiquité, mais ce n'est pas une bonne façon de parler quand on est un peu archéologue. On devrait plutôt dire c'est la fin du second âge du fer. Ah, ça, c'est plus intéressant. Parce que la fin du second âge du fer, c'est l'extrême fin de l'âge des métaux qui fait aboutir le cycle du néolithique. Rien d'autre. Et si vous pensez comme ça, et que vous avez compris que le néolithique, c'est ce qui impose la figure de l'humain comme centre de toutes les activités, ben vous comprenez pourquoi la première question des philosophes, quand elle surgit en Grèce antique, ça ne peut être que qu'est-ce que l'homme ? Parce que c'est la question de fait, et depuis plusieurs millénaires, qui est devenue centrale. Donc, du coup, j'ai une interprétation sur ce que c'est que la philosophie. Enfin, je suggère la chose. Ça m'a un peu fait de mal quand je l'ai formulé d'ailleurs dans ce livre, parce que je me suis dit, quand même, c'est pas très bien ce que tu fais. Mais bon, je l'ai fait quand même. L'interprétation consiste à dire, à la question qu'est-ce que la philosophie, c'est peut-être une façon d'entériner ce mode d'être au monde qui a surgi et en quelque sorte de le fixer dans le concept. Et ça, vous voyez, quand s'invente le concept, c'est-à-dire la capacité à démontrer argumentativement avec une prétention à la rationalité, ce qui n'existait pas avant la philosophie. Hein. Il n'y a pas de philosophie égyptienne, par exemple. Il n'y a pas de philosophie mésopotamienne. Il y a une grande intelligence, une grande culture, une grande religion, tout ce que vous voulez. Mais soyons rigoureux. La philosophie, ça n'existe pas avant les Grecs. Et moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que au même moment, les Indiens, etc., bon, non. Depuis, oui. Mais depuis les Grecs. Eh bien, quand la philosophie, elle s'invente en entérinant cela, c'est-à-dire en entérinant un mode d'être qui a déjà fixé la culture néolithique, qui l'a largement dominée. À la fin de ce livre, La philosophie au risque de la préhistoire, d'où le titre, qu'on comprenait peut-être maintenant, ben c'est ça que je relate en regardant dans les textes, y compris de Platon et d'Aristote, les traces de cela, et quand on les cherche, ben tout d'un coup on les découvre. Et elles vous apparaissent aussi évident que le nez au milieu de la figure, c'est-à-dire la philosophie, c'est à entériner ça. Et dernier argument pour le faire comprendre, là encore, les philosophes sont parfois un petit peu naïfs. Je l'ai moi-même été très longtemps, donc je fais amende honorable, comme ça au Tola en son temps. Ils pensent la philosophie souvent à partir du moment où elle est créée, depuis ce qu'elle est devenue. Sans faire justement un travail d'archéologue, se dire à quelles conditions une originalité pareille a pu apparaître. Mais si vous vous rapportez au temps de la Grèce antique quand Socrate écrit à Athènes, savez-vous combien il y a d'habitants dans l'Athènes de Socrate au 5e siècle ?
Combien ?
Encore un petit peu ? 400 000. Ça, quasiment personne ne le sait, et pas un philosophe ne le dit. 400 000 habitants. Alors évidemment, on compte très très peu de citoyens, moins de 120 000 citoyens. Le reste, ce sont ce qui n'est pas citoyen, c'est-à-dire les femmes des citoyens. Mais ça ne fait pas la seule différence. Il y a les métèques, c'est-à-dire ceux qui sont grecs ou non grecs, mais pas esclaves. Et puis les esclaves qui, eux, sont très majoritaires. Par exemple, j'ai appris en regardant plus près que à sa mort, Aristote avait quand même légué 8 esclaves, dont 3 enfants. Bah, c'est sympa comme dot, non ? Vous trouvez pas ? Non ? Non, ça se fait moins aujourd'hui. Donc, quand on vit dans une cité qui connaît 400 000 habitants, bah, on connaît tous les problèmes que connaissent aujourd'hui les grandes métropoles. On a des problèmes d'organisation, de territoire, on a des problèmes de législation, on a des problèmes de maintien de l'ordre, on a des problèmes d'armée, on a des problèmes de financement. Comment voulez-vous que Platon, Aristote commencent par écrire autre chose que des livres politiques sur les cités ? Ben oui, l'invention de la philosophie, ça s'ancre quelque part, et ça s'ancre dans une très longue tradition néolithique. Voilà, je vous remercie.